Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Delta FM, la radio du LP2I.
Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale consacrée à l'éducation, aux médias et à l'information. Un sujet très important, surtout à notre ère en 2025.
En effet, la radio, ce n'est pas seulement apprendre à parler dans un micro, c'est aussi apprendre à s'informer, comprendre, partager, débattre et surtout c'est un moyen de prendre confiance en soi.
Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Madame Bénédicte Lesage, membre du Collège de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Elle préside le groupe de travail éducation aux médias, transition écologique et santé publique. Et elle vient échanger avec nous sur la place des jeunes dans le paysage médiatique d'aujourd'hui.
Mais avant de lui donner la parole, nous allons revenir sur l'histoire de Delta FM, notre radio née il y a presque 40 ans au LP2I. Nous recevons donc Madame Chardavoine, proviseur du lycée, qui va nous rappeler comment tout a commencé et comment Delta FM a su traverser les années.
Oui, bonjour. Donc Delta FM est une radio associative et indépendante qui a été créée en 1987. Ses locaux se trouvent depuis le départ au sein du lycée pilote Innovant International, construit cette année-là sur le site du Technopôle du Futuroscope. C'est l'époque bénie des radios libres, en grand développement depuis une dizaine d'années. Les fonds de départ pour acheter le matériel ont été trouvés par un élève du lycée. Initialement, Delta FM était géré de manière complètement autonome par les élèves et les étudiants. À partir des années 2000 jusqu'à 2017, les jeunes ont pu bénéficier de l'encadrement des animateurs culturels de la région Poitou-Charentes à l'époque, dont l'emblématique Walter Puyer, aujourd'hui animateur radio sur Pulsar et référent jeunesse pour la région Nouvelle-Aquitaine. En 2017, la situation se complique pour Delta FM. Les animateurs culturels se font plus rares et le recrutement d'un technicien radio salarié de l'association devient indispensable. Mission réussie grâce à un financement participatif et la récolte de plus de 7000 euros qui contribue à créer le CDI occupé aujourd'hui par Justine Maille. En presque 40 ans d'existence, le studio a vu passer plusieurs générations de lycéens et d'enseignants, du petit matin avec les matinales animées par les internes jusqu'au soir, voire toute la nuit avec les 25 heures de radio à l'occasion des 25 ans du LP2I. Des lycéens qui... Parfois, par la suite, ont embrassé une carrière radiophonique, comme Corentin, qui après Fun Radio est désormais animateur sur Europe 2, ou bien Mathieu, qui est journaliste Radio France et dont on peut entendre les reportages sur Ici.
Merci beaucoup, Madame Chardavoine, pour ce retour sur les débuts de Delta FM.
Mais que devient la radio en 2025? Pour en parler, nous recevons Madame Giraud, présidente de l'association Delta FM. Elle va nous expliquer ce qu'est Delta FM aujourd'hui et comment la radio continue de jouer un rôle essentiel dans la vie du LP2I.
Alors, bonjour Madame Giraud.
Bonjour.
Delta FM est une radio associative. Qui en sont les acteurs aujourd'hui? En quoi ça consiste et qui en sont les acteurs?
Les acteurs sont principalement les élèves du LP2I qui adhèrent à la radio et qui animent des émissions de radio tout au long de l'année, que ce soit de façon volontaire ou dans le cadre des cours. Ce sont aussi des enseignants qui s'impliquent à la radio. Et d'ailleurs, tout le bureau associatif est constitué d'enseignants. Et donc, ils le font bénévolement, ils animent cette radio bénévolement.
Vous parlez souvent d'une radio ouverte, donc comment vous favorisez la participation d'autres publics, associations, habitants, anciens élèves? Mais Delta FM, ce n'est pas seulement pour les élèves du lycée?
Non, ce n'est pas seulement pour les élèves du lycée, puisque nous accueillons dans nos locaux des collèges qui souhaitent découvrir la radio, des lycées aussi avec qui nous sommes partenaires. Nous avons aussi la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny, de la commune, qui vient un mercredi après-midi sur deux animer une émission pour parler de l'actualité locale. Nous avons aussi un partenariat avec le CART, pour un public un peu plus âgé, un peu plus adulte. Et puis, on essaye aussi de faire avec un message plus d'insertion, puisqu'il y a des IEM et un EMI aussi qui vient ici à la radio pour animer des émissions.
Est-ce que Delta FM joue un rôle dans l'éducation aux médias?
Bien sûr. Donc nous avons d'ailleurs une certaine expertise qui est reconnue pour l'éducation aux médias. Nous avons, par exemple, chaque année, une équipe qui participe au concours Faites la Une, organisé par le CLEMI. Et régulièrement, depuis 2021, d'ailleurs, je crois, depuis 2021 jusqu'à 2024, le groupe LP2I a remporté le concours de la fête de Fête la Une radiophonique, du lancement radiophonique. Donc nous avons une certaine expertise et c'est aussi pour ça que les collèges, que les différents lycées nous demandent de les accompagner aussi dans cette optique de réalisation d'émissions de radio.
Le poste de technicien radio occupé par Justine aujourd'hui semble central aujourd'hui. Comment ce rôle a-t-il évolué depuis sa création ?
Alors, il a en effet bien évolué, puisqu'au début, c'était des animateurs culturels qui encadraient les élèves, qui les encourageaient à créer des émissions. Et puis, en effet, après, en 2017, il y a eu un grand changement, un grand bouleversement avec un recrutement en CDI. Et puis, depuis septembre de cette année, le changement fondamental, c'est que maintenant, le poste de technicien est intégralement financé par l'association. Il n'y a plus de soutien de la part de l'Éducation nationale, du rectorat. Et donc, ça change la donne par rapport aux responsabilités aussi qu'a le bureau par rapport à ce poste-là et par rapport aussi aux engagements que l'association peut avoir par rapport au lycée.
Merci beaucoup. Dernière question. Quel est l'avenir pour la radio, pour Delta FM ?
L'avenir radio. Évidemment, on espère que un maximum d'élèves va s'emparer de ce média. Et si possible, on adorerait que des matinales revoient le jour, puisqu'il n'y en a pas eu depuis 2021. Je pense que si on pouvait avoir une ACF aussi, une activité complémentaire de formation, qui est un dispositif phare du lycée, qui gère la radio, qui s'empare des grilles de programmes, des playlists, pour aller couvrir des festivals, pour nous, ça serait vraiment un avenir des plus intéressants et prometteurs.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Giraud, pour ces éclairages. Delta FM fait donc partie des enjeux d'éducation aux médias de notre lycée. Et justement, nous recevons maintenant celle qui porte ce sujet au niveau national.
Madame Bénédicte Lesage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice de télévision et de cinéma. Vous avez dirigé plusieurs sociétés de production, dont Macaret Films, Shine Films et plus récemment LP Productions. Vous avez accompagné de nombreux projets, dont le film La Journée de la Jupe ou bien encore la série Guyane.
Depuis 2023, vous siégez au collège de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, où vous présidez le groupe de travail éducation aux médias, transition écologique et santé publique. Un sujet qui nous concerne particulièrement aujourd'hui à Delta FM.
On va donc passer aux questions. Vous avez eu une longue carrière dans la production audiovisuelle avant de rejoindre l'ARCOM. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer du monde de la création à celui de la régulation ?
Bonjour. Alors, par rapport à cette question, c'est pas quelque chose de planifié. J'étais très heureuse et j'étais très passionnée par mes activités de productrice. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir produire beaucoup de fiction et dans des univers très différents. Et une des dernières productions, pas la dernière, mais la série Guyane, qui était quand même un enjeu, je dirais, et créatif et de fabrication assez exceptionnel. Donc j'aime la production encore, j'ai toujours aimé la production et une opportunité est venue de pouvoir postuler, puisqu'on postule pour rentrer comme conseillère à l'ARCOM. Moi, on a plusieurs entités qui nous nomment pour garder notre indépendance. Donc il y a une partie des conseillers qui sont nommés par la présidente de l'Assemblée nationale, d'autres par le président du Sénat. Et aussi, on a un membre qui est nommé par le Conseil d'État et un membre par la Cour de cassation. Et le fait que ça soit différentes structures qui ne sont pas dépendantes du gouvernement, qui nomment les conseillers, seul le président de l'ARCOM est nommé par le président, mais dans tous les cas de figure, nous devons, une fois qu'on a été nommé par l'un ou par l'autre, on doit passer pour les conseillers devant les commissions d'affaires culturelles ou de l'Assemblée nationale ou du Sénat et qui doivent voter à 3/5 leur accord. Donc, en fait, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour garantir l'indépendance des membres au niveau de l'ARCOM, des conseillers, pour que nous prenions des décisions sans favoriser des intérêts particuliers ou des intérêts politiques ou autres. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, depuis que je suis rentrée à l'ARCOM, je n'ai plus le droit de produire pour ne pas mélanger les différents rôles. Donc ça, c'est la question de la nomination. Après, pourquoi l'ARCOM ? C'est que c'est absolument passionnant. On est au cœur, je dirais, du réacteur de ce qu'est, ce que sont les médias aujourd'hui, dans toutes leurs dimensions, que ça va de la radio locale aux grands acteurs du numérique internationaux. C'est un enjeu profondément de démocratie. On a la chance, je dirais, à l'ARCOM, de toucher aussi à beaucoup d'enjeux de société, puisqu'on travaille aussi bien sur la représentation de la diversité de la société française dans les médias, que la parité homme-femme, que la lutte contre le piratage. Donc, on a l'impression d'être dans la vie de la vie de la nation, et on essaye modestement, avec les décisions qu'on prend, de trouver les équilibres qu'on essaye les plus justes possibles pour que le public, pour défendre les intérêts du public et donc du citoyen face aux médias, avec tout ce que ça comporte de formidable, d'éducation, d'information, etc., et en même temps toutes les dérives qui peuvent exister et qui peuvent mettre en danger la démocratie.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news, d'images truquées, d'intelligence artificielle, etc. Vous sentez une urgence à former les jeunes et à décrypter tout cela ?
Alors d'abord, je pense que les jeunes, ils sont pas du tout, et on a produit une étude récemment qui montre que les jeunes, ils sont tout à fait conscients de toutes ces problématiques et qu'on n'a pas non plus à leur donner des leçons parce qu'ils sont... Ils sont conscients qu'il y a des dangers. Après, le rôle, je dirais, de l'ARCOM et des adultes, des parents, des encadrants, etc., par rapport aux jeunes, c'est plutôt d'accompagner les usages, de les expliquer, de donner les informations en quoi, quand on est sur les réseaux sociaux, comment on laisse des traces numériques, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact par la suite. Parce que quand on sait que vous avez été... D'abord, quand vous laissez des traces sur les espaces numériques, dans les réseaux sociaux, ça veut dire quoi ? C'est qu'on va vous envoyer des contenus qui vont souvent vous enfermer dans des bulles informationnelles. Parce que si vous êtes allé voir, je ne sais pas, des matchs d'un sport, on va vous envoyer beaucoup, beaucoup d'informations sur ce sport et beaucoup... de communication commerciale, parce que vous êtes un produit quand vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous êtes là pour être vendu à des annonceurs, parce que les annonceurs, ils disent « Moi, je veux toucher plutôt des garçons ou des filles de 15 ou 14 ans, plutôt qui aiment le sport ou qui aiment les jeux vidéo, et je veux envoyer des communications commerciales à une cible très précise. » Et donc, il faut jamais oublier que vous êtes des produits quand vous êtes, mais les adultes aussi, hein, c'est pas un privilège des jeunes. Et donc c'est, en fait, je pense que l'éducation aux médias, l'information et la citoyenneté numérique, c'est comment on arrive aujourd'hui à être des citoyens dans un monde qui est le monde habituel, mais qui est aussi un monde virtuel, qui est un monde numérique sur lequel qui a plein de qualités. Et moi, je suis la première à dire que la manière dont les jeunes s'informent différemment sur le numérique, elle est très riche et elle peut apporter beaucoup de connaissances, mais qu'il y a des dangers. Et dans l'étude qu'on a faite récemment, il y a un certain nombre de dangers. Il y a le danger d'abord de l'addiction, c'est-à-dire combien d'heures on passe sur les réseaux sociaux. Et quand on passe X heures sur les réseaux sociaux, c'est des heures qu'on ne passe pas à faire du sport, c'est des heures qu'on ne passe pas à rencontrer ses amis physiquement, c'est des heures avec lesquelles on n'échange pas avec sa famille, c'est des heures où on ne fait pas d'autres activités. Donc, comment on trouve l'équilibre dans tout ça ? Donc, c'est comment on accompagne les jeunes pour qu'ils aient conscience de ce temps-là. Et puis, c'est aussi les dangers sur les réseaux sociaux, on en a d'autres. C'est comment il peut y avoir des personnes qui ne font pas partie de votre entourage, qui sont des inconnus et qui peuvent vous envoyer des contenus problématique. Et donc, comment vous faites attention à ne pas ouvrir vos réseaux sociaux à n'importe qui pour pas vous faire agresser, parce que des gens peuvent être mal intentionnés à votre égard. Et donc ça, il faut que vous le sachiez. Il y a tout ce que vous connaissez, je pense mieux que moi, ce qui peut être le harcèlement en ligne, qui est aussi une vraie problématique. Il y a tout ce qui est tous les contenus problématiques, qu'ils soient dans la violence, dans la pornographie, auxquelles vous pouvez être exposé sans vouloir l'être et qui peuvent vous choquer, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme. Donc, en fait, je pense qu'on a tous une responsabilité autour de vous pour vous aider à trouver les outils pour vivre dans ce monde-là, parce qu'on ne va pas tout d'un coup couper tous les réseaux sociaux, arrêter le numérique, ça a plein de qualités et de formation et d'information et de divertissement. Mais comment vous arrivez à trouver la bonne mesure de l'utilisation de ces outils ?
Alors, merci beaucoup. On va passer à une dernière question. Vous présidez aussi un groupe de travail sur la transition écologique et à la santé publique. Alors, en quoi ces thèmes peuvent-ils se rejoindre avec l'éducation aux médias ?
Alors, ça tombe bien parce que, par exemple, on va produire cette année avec Arte Éducation une première ressource éducation aux médias et transition écologique. Par exemple, on constate aujourd'hui, on est en train de sortir les premiers chiffres parce que c'est une nouvelle technologie qui est une technologie de rupture, qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on observe que l'utilisation de l'intelligence artificielle a un impact énorme sur la consommation d'énergie. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que là où les data centers où sont entraînées les intelligences artificielles demandent une consommation d'énergie énorme, et on peut se poser la question à terme, est-ce que à un moment donné, si on a des problèmes énergétiques, qu'est-ce qui va être privilégié ? L'électricité pour chez vous pouvoir mener votre vie personnelle ou les data centers ? Parce qu'on se dira, on ne peut pas les mettre en panne. Donc aujourd'hui, je me souviens quand je suis arrivée en 2023 à l'ARCOM, quand je discutais avec les Google et autres, ils me disaient, nous, on n'est pas loin d'avoir une énergie verte pour toutes nos activités numériques. Et aujourd'hui, on est en train de basculer avec l'intelligence artificielle où ils disent, il faut qu'on construise des centrales nucléaires parce que nos besoins énergétiques sont tels qu'avec les énergies renouvelables qui existent, on ne peut pas répondre à nos besoins. Donc, c'est un exemple. Après, sur la santé publique, aujourd'hui, on est en train de travailler avec des gens de l'univers médical autour du ministère de la Santé sur la problématique de la désinformation sur les réseaux sociaux et éventuellement sur les médias audiovisuels en termes de santé publique. Parce que si, par exemple, on voit bien dans un autre pays, où tout d'un coup, si la parole devient « il ne faut plus se faire vacciner », si on se fait plus, si les jeunes ne veulent plus se faire vacciner et où les parents ne vaccinent plus leurs enfants, qu'est-ce que ça va induire comme crise de santé publique si des maladies réapparaissent qui ont disparu ? Donc, vous voyez, en fait, c'est très large.
Oui. Alors, je pense qu'on peut passer à la pause sonore.
Toute seule, je médite sur la toile de tes non-dits. J'évite les pensées salées, les dites et les redites. Peur des voix, ça dit penser, j'évite. Tes préoccupations sont ailleurs, les miennes ne sont pas bien loin. À quoi bon? Je te quitte sans un doute et d'ailleurs, ton cœur ne connaît plus mon nom, non. Tes désirs déambulent en tailleur, talons aiguilles et manteaux en maison. Tu fais du porte à porte et d'ailleurs, la mienne est fermée pour de bon. Bon, je la serre à coups de ciseaux, ça fait mal. Faut voir comme t'étais beau. J'ai trop patienté. Les fleurs et les cadeaux, je dévale, je repars à zéro. Tes préoccupations sont ailleurs, les miennes ne sont pas bien loin. préoccupations sont ailleurs. Tes 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 préoccupations sont ailleurs. J'ai plus peur de rien. Pas même de tes visites. Dans la messe est dite, je me laisse aller lentement et au plus vite. Je m'installe tant que tu te délites. Tes préoccupations sont ailleurs, les miennes ne sont pas bien loin. À quoi bon? Je te quitte sans un doute et d'ailleurs, ton cœur ne connaît plus mon nom.
Merci beaucoup, Madame Le Sage, pour cet échange.
On accueille donc deux nouveaux arrivants. Monsieur Gauthier, professeur d'histoire-géographie au LP2I.
Bonsoir.
Et Madame Bureau, assistante d'éducation au LP2I aussi.
Bonsoir. Et je vous propose qu'avant que vous nous posiez quelques questions, on s'attaque à vous, puisque sans vous, finalement, la radio n'existerait pas. Bonjour, vous deux.
Bonjour, bonjour.
On inverse bonjour. Les rôles. Et il me semble qu'on écoute tout de suite un micro-trottoir réalisé par les élèves.
Eh bien, j'y suis allé généralement pour les évaluations, etc., notamment en espagnol, et c'était sympa. Eh bien, c'était assez divertissant, franchement, c'est mieux que juste s'enregistrer soi-même avec son téléphone ou soi-même sur son ordinateur, donc c'est bien.
Ça permet de s'entraîner, d'avoir de l'expérience quand on parle, et c'est pas mal du coup.
La radio, ça permet d'avoir de l'expérience. Ça va se faire sur la technique, l'organisation avec l'équipe et tout ce qui va être le matériel aussi, ça permet d'avoir une bonne expérience.
La radio, j'ai l'expérimenté notamment dans plusieurs cadres, que ce soit notamment dans des projets en classe où on a pu faire des projets à la radio comme des émissions radio ou autres. Et on a aussi, j'ai aussi pu l'expérimenter durant ces deux dernières années en ACF. On a fait des interviews, etc. Et ça a franchement bien marché. Je suis plutôt content de la radio. Et aussi, ça m'a apporté... surtout de l'expérience par rapport à faire de la radio et à être plus à l'aise à pouvoir parler à la radio et développer, par exemple, dans des interviews et rebondir sur des sujets, etc.
Bah, je dirais une aisance à l'oral, déjà, et aussi une capacité de rédiger plus facilement un texte.
Et merci beaucoup à Mamadou et à nous qui ont réalisé ce micro-trottoir. Et justement, vous êtes plutôt actif au sein de Delta FM. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ?
En vrai, c'est ma sœur qui a participé il y a quelques années ici, et le fait qu'elle m'en parle, c'est pas qu'elle m'a appris, mais elle m'a montré un peu quelques techniques, enfin, de ce qu'elle a fait quand elle était lycéenne, ça donne envie, et franchement, c'est un cadre qui est hyper important au lycée, ça nous a appris énormément de choses, enfin, sur la, comme je vous disais, plus tôt dans l'émission, la confiance en soi, c'est, enfin, ça m'a beaucoup aidé.
Moi, personnellement, c'était un peu avant mon arrivée au lycée. Donc, durant la période un peu on découvre le lycée, la JPO, etc., j'ai pu voir que la radio, c'était quelque chose d'assez intéressant au lycée. Et j'avais vu qu'il y avait une émission de sport, donc ça m'intéressait. Et surtout, j'avais écouté, en fait, les premières émissions de l'équipe qu'il y avait avant. Et je les ai comparées aux dernières et j'ai vu le changement au niveau des aisances à l'oral, etc. Du coup, ça m'a donné envie de participer.
Et alors, justement, cette année scolaire, quel type d'émission animez-vous ?
Eh bien, moi, j'anime avec d'autres premières une émission où on parle qui s'appelle Radioactif. Et on parle de cinéma, acteurs, de festivals qui sont bientôt là ou qui sont passés, de dernières sorties de musique. On parle aussi beaucoup de santé mentale. Donc, voilà.
Et donc, moi, j'ai repris l'émission en question de sport qui s'appelle Delta Sport. Actuellement, je suis avec un seul première, mais l'année dernière, on était avec des terminales et un seconde. Et on parle du coup des résultats sportifs de la semaine, de l'actualité, etc.
Et aujourd'hui, ça fait entre 1 et 2 ans que vous faites partie de la radio.
C'est ça.
Est-ce que vous avez eu des expériences particulièrement marquantes ?
L'année dernière, j'ai eu la chance de participer à le nouveau festival On y a été sur 2 jours, c'était à Bordeaux. Oui, c'est ça. C'était incroyable. On a rencontré énormément de jeunes. Donc c'est un festival qui est composé que de lycéens, où ils proposent des projets qu'ils ont créés dans leur lycée. Et c'était hyper intéressant.
Et moi, personnellement, j'aurais 2 événements qui me viennent en tête. Le premier événement, c'était la dernière émission de l'année dernière avec l'équipe, qui était émouvante. Et l'autre événement auquel je pense, c'est un jour, on avait accueilli et interviewé des étudiants en STAPS qui avaient donc organisé une sorte d'événement à Poitiers autour de la course d'athlétisme.
Et alors, en faisant ces émissions, est-ce que vous apprenez quelque chose ?
Oui, moi, tous les jours, j'apprends. Déjà, j'apprends des nouvelles sportives, des résultats, de la forme des équipes. J'apprends à toujours mieux improviser, à mieux m'exprimer, à mieux articuler aussi, parce que j'avais du mal avant.
Bah, aussi, improviser, c'est vrai que c'est une grosse partie, comme a dit Mamadou. Et l'information sur, quand on parle d'acteurs, on ne connaît pas forcément leur vie quand on les regarde à travers des films. Donc ça permet vraiment de s'informer plus profondément dans ce qui a été créé, dans les réalisateurs, etc.
Et vous n'y êtes pas encore aujourd'hui, vous vouliez poser une question ?
Oui, juste, ce qui m'amuserait, c'est de savoir si vous écoutez du coup d'autres radios qui vous inspirent par rapport à la manière d'animer une émission, la manière de s'exprimer, est-ce que d'envisager des rubriques, est-ce que vous avez cette curiosité ou pour le moment vous préférez développer par vous-même vos capacités ?
Alors moi, je n'ai pas trop écouté d'émissions à la radio. Après, j'écoute quand ça passe à la télé, à la radio. Mais c'est surtout sur les émissions radio comme Quotidien qui m'a plu. Voilà. Oui.
Et moi, personnellement, j'écoute de la radio pas souvent. Mais quand ça peut arriver dans la voiture très souvent ou à la maison. Et surtout, je m'inspire aussi, par exemple, de vidéos, de critiques sportives qu'on peut voir sur YouTube et qui peuvent être du coup sous format radio.
Et vous en êtes encore un peu loin, mais justement, est-ce que cette expérience vous a donné envie de travailler peut-être plus tard dans les médias ou dans la communication ?
À l'origine, je n'avais pas spécialement envie de travailler dans la radio. Et maintenant que j'en fais, je trouve ça bien, mais c'est pas quelque chose sur lequel je pense me diriger.
Ça reste une passion, un passe-temps.
Ouais, ça reste quelque chose de cool.
Pour moi, c'est pareil, ça m'a traversé l'esprit comme métier, mais c'est vrai que plus on y travaille tous les jours, plus je me dis que peut-être que sur ce que je découvre à côté, c'est pas la première chose que je vais faire plus tard.
Alors, pour qu'une radio vive, il faut en parler. Qu'est-ce que vous diriez aux élèves du lycée pour vous rejoindre à la radio ?
Je dirais qu'il suffit juste d'un sujet qu'on aime bien et auquel du coup, on serait prêt à, et dont on serait prêt à parler avec des amis ou non.
Franchement, il a tout dit.
Très bien, merci beaucoup pour ces petits mots, pour ces petites questions, et on vous rend l'antenne.
Merci beaucoup.
Merci. Donc, on voit combien l'éducation média est un enjeu collectif et que la radio, ici à Delta FM, peut être un formidable terrain d'apprentissage. Nous allons maintenant poursuivre en donnant la parole à ceux qui font vivre la radio, les enseignants et les assistants d'éducation qui, par ailleurs, nous ont interrogés juste avant.
Je m'appelle Julie Vinot et je suis professeure au lycée pilote Innovo International de Jaunet-Marigny depuis 13 ans. Je suis professeure de français et je suis professeure aussi de français langue étrangère et seconde auprès donc d'élèves migrants, allophones, et par ailleurs, je suis la référente culture de l'établissement. Alors la radio, elle est fondamentale dans mes pratiques pédagogiques, d'abord parce que les élèves doivent travailler l'oral et que la radio est un outil formidable pour ça, pas seulement dans le cadre du grand oral hein, qui vient évaluer leur prestance, leur éloquence, leur capacité à développer un sujet à l'oral, mais aussi dans plusieurs autres situations, puis dans leur vie future aussi, ils doivent s'approprier l'oral et pour ça la radio c'est un incroyable outil puisque ça permet une forme de réflexivité, ils peuvent s'entendre, ils peuvent se réécouter en podcast. Donc en ça le site de Delta FM est super parce que ça permet de garder la trace des productions orales des élèves. La radio, moi je l'ai utilisée de manière personnelle pour faire vivre aussi le collectif autour de cette radio. J'ai, il y a quelques années, imaginé une émission de radio autour de la culture, où des professeurs, des élèves sur longtemps libre venaient parler de pièces de théâtre, de livres qu'ils avaient lus. Et j'avais trouvé cette expérience super, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste un outil pédagogique, c'est aussi un formidable outil d'ouverture culturelle. Et puis, outre le fait que je l'utilise très souvent comme forme de production finale à des tâches en cours, j'ai un souvenir particulièrement marquant. J'avais monté un projet avec une classe de seconde autour d'une pièce radiophonique. On avait adapté une nouvelle de Maupassant en pièce radiophonique avec un intervenant, un artiste comédien qui s'appelle Pierre Porcheron, en lien avec la Comédie Poitou-Charente à l'époque, qui s'appelait comme ça, le CDN. Et c'était vraiment incroyable parce que tous les élèves étaient mobilisés autour des bruitages, de tout cet environnement sonore que seule permet la radio, pour recréer, s'approprier la nouvelle réaliste du 19e. Et ça avait été une expérience collective absolument incroyable.
Je suis Julie Morin, je suis professeure documentaliste et trésorière de Delta FM. Je l'utilise dans le cadre de mes missions en tant que professeure documentaliste pour l'éducation aux médias et à l'information. Et je l'ai aussi utilisé à titre personnel en tant qu'adhérente pour créer une émission. C'est un outil formidable pour aborder les métiers du journalisme avec les élèves. D'inscrire ça dans les projets interdisciplinaires. Par exemple, on a fait participer une classe à un concours Éducarté. L'objectif était de créer des interviews d'auteurs et d'autrices du romantisme. Les élèves se sont pris au jeu et avaient pour contrainte d'interviewer des auteurs comme Victor Hugo, George Sand, avec les enjeux d'aujourd'hui. Donc un véritable jeu de rôle et qui leur a permis d'aborder les techniques d'écriture. Ça permet vraiment aux élèves d'apprendre à parler à la radio et de comprendre les enjeux de l'information. Par exemple, la hiérarchie de l'information, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant, la question du point de vue et de l'angle.
Eh bien, merci pour ces témoignages. Et maintenant, nous allons passer avec Monsieur Gauthier et Madame Bureau. Donc, Monsieur Gauthier, vous êtes enseignant en histoire-géographie. Et comment vous utilisez la radio ? C'est en tant qu'enseignant ou vous en tant que pour le personnel ou vous utilisez ça avec les élèves ?
Alors, moi, c'est avec les élèves. Donc, je suis Henri Gauthier, enseignant en histoire-géographie. Et donc, je suis arrivé ici il y a 10 ans. Et effectivement, dans mon enseignement, j'essaie de proposer, alors pas forcément à toutes les classes et tout le temps, mais en tout cas chaque année, de passer à la radio, de faire des activités ici. Et pour moi, c'est un excellent moyen, en fait, pour pousser à la recherche documentaire, pour organiser sa pensée et puis évidemment s'entraîner à l'oral, comme on dit les collègues. Et puis pour moi, c'est essentiel aussi d'essayer de rendre cette expérience commune à tous. Quand il y a un projet radio, tous les élèves de la classe y passent. Par exemple, moi, cette année, en spécialité AGGSP, le projet, c'était le thème de la puissance, c'était « C'est qui le plus fort ?». Et donc, c'était proposé aux élèves de créer des duos de pays et puis de faire une émission de confrontation pour savoir lequel est le plus puissant et sur quels critères. On peut aussi avoir des projets, là j'en ai entendu tout à l'heure, peut-être un peu plus profond, j'allais dire, notamment le fameux concours « Faites la une » proposé par le Clémy, auquel je me suis associé. C'était une collègue, Magali Simon et Antoine Coutel, qui l'avait lancé donc il y a 5 ans. Et c'est vrai que nous, on a cette chance incroyable de pouvoir faire une papier, radio et vidéo. Et donc, pour la radio, chaque année, il y a un groupe qui se colle justement à cette présentation-là. Et c'est vrai que, moi, l'intérêt de ces émissions-là, par exemple, c'est de travailler la ligne éditoriale. Parce que c'est vraiment ce qui est proposé par le Clémy, de trouver un angle, comme a dit Julie Morène. Et puis pour terminer, là cette année, avec une classe encore de spécialité, on participe donc avec mon collègue Jordi Colomère. Donc nos deux groupes, on va travailler sur un prix Géopolitique Bulle. Et les élèves, donc ils ont 10 BD de géopolitique à lire, et les élèves doivent créer des fiches sonores, j'allais dire des présentations sonores, des podcasts pour présenter leur BD. Voilà.
Eh bien, merci. Et vous, Lola Bureau, donc vous êtes AED au lycée du LP2I, et comment vous participez à la radio ?
Alors, avant d'y participer en tant qu'AED, moi j'étais élève ici, donc j'ai participé en tant qu'élève pendant pas mal d'années, que ce soit la matinale, la CF, etc. Et pour moi, une fois que je suis arrivée ici, c'était important de réussir à déjà renouer un lien avec ça et renouer un lien avec ça avec les élèves. Donc, on mène une émission une fois par semaine avec les internes pour essayer de faire en sorte qu'ils aient un temps privilégié. Parce que beaucoup, entre les options, les révisions, etc., n'ont pas forcément le temps de s'investir dedans dans la semaine de cours. Donc, pour moi, c'était important que c'est cette expérience-là et de les aider. Parce qu'on en a plusieurs qui connaissent bien la radio, qui en font depuis un moment, et d'autres qui commencent tout juste. Donc pour moi, c'était important qu'on ait un peu tous ces profils-là et d'accompagner les jeunes sur le fait de réussir à se renseigner sur comment est-ce qu'on écrit une chronique, comment est-ce qu'on s'exprime, comment, etc. Tout en n'étant pas dans un contexte où il y a toute la moitié de la classe derrière la vitre qui peut être assez impressionnant des fois, mais où on est juste entre nous et où ils se sentent peut-être un peu plus à l'aise pour exprimer leurs avis, leurs émotions, leurs opinions, leurs passions aussi. Donc moi, je l'utilise plutôt sur ces contextes en dehors des cours.
Et comme a dit Lola avant, donc elle a découvert ça plus jeune, mais vous, Monsieur Gauthier, est-ce que la radio fait partie d'un des critères pourquoi vous avez intégré le LP2I ?
Alors non, c'était pas pour ça au départ. Enfin, bref. Mais il y a longtemps, en fait, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais dans un collège de banlieue parisienne où il y avait une radio qui n'émettait pas aussi loin, qui avait été montée par le prof de techno et à laquelle on s'associait. C'était un collège de REP. Donc la radio, j'avais vu les avantages que ça pouvait être. Et puis c'est mon média aussi préféré. Moi, j'aime beaucoup écouter la radio.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Donc malheureusement, notre émission touche à sa fin. Mais on espère que vous avez compris ce que la radio nous apporte, nous, en tant que jeunes et en tant qu'enseignants pour les personnes... merci à tous nos invités d'avoir partagé leur expérience et leur regard. Merci Madame Delage, notre invitée spéciale. Un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Madame Chardavoine, Madame Giraud, Madame Bureau, Monsieur Gauthier, tous les élèves du micro-totoir, aux enseignants qui font vivre la radio, et à Justine, bien sûr, qui est la technicienne de la radio, qui, sans elle, nous ne pourrions pas réaliser nos émissions. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, toujours sur Delta FM 90.2. Vous étiez avec Mamadou et Anouk. Restez à l'écoute.